Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez?
Bonjour.
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 C'est parfait. Alors, juste quelques détails techniques. Je suis aussi connecté via mon téléphone. Donc, si jamais j'ai un souci de connexion, ne vous en faites pas. On a un canal backup. Je pourrais basculer sur mon téléphone. Alors, le message ce matin, je vais prendre ceci. Je vais faire ça. Donc, je vais inviter Nizar à projeter le premier diapo. Si elle veut bien. D'accord, voilà, c'est nickel. Donc, je vais prendre ça. Ok, j'aimerais vous accueillir tous ce matin, ceux qui sont habitués, hein, des gens qui connaissent déjà notre église, et puis s'il y a aussi des gens qui sont nouveaux parmi nous, sentez-vous accueillir parmi nous. Alors ce matin, nous vous remercions hein, d'avoir prié pour nous, pour le groupe de jeunes. Donc nous prenons le culte de bout en bout, c'est nouveau pour nous. Et donc, c'est l'occasion pour chacun de s'exercer et d'avancer. Alors, je veux vous partager ce matin sur un thème que vous connaissez. Le titre du message doit être Racheter le temps. Donc, on peut avancer, Nizar. Racheter le temps. Et j'ai été aussi un peu encouragé d'entendre jusque-là des propos par les uns et les autres qui sont allés dans ce sens, donc ça m'a encouragé. Et donc, je disais, le thème, ça va être racheter le temps. Il y aura deux grandes parties. Une première partie où nous verrons deux exemples, celui de Christ et de Pierre. Nous verrons comment ils ont géré leur temps de leur vivant. Après, nous verrons ce que nous pouvons en faire. Et dans un deuxième temps, on verra une deuxième partie que je vous révélerai plus tard. On avance, Nizar. Alors, le texte de notre partage ce matin se trouve dans Éphésiens chapitre 5, et je vais lire du verset 14 au 17. Donc, je vous invite tous à prendre votre Bible. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, du verset 14 à 17. Je lis. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, racheter le temps est un appel à prendre conscience que le temps pourrait faire défaut. Nous avons tous besoin du temps pour réaliser nos différentes tâches. Tout ce que nous faisons s'inscrit dans le temps. D'ailleurs, ce message que je suis en train de partager avec vous, eh ben, ça s'inscrit dans le temps. Je ne pouvais pas le faire si j'étais hors du temps. Et le temps est une ressource limitée. Et donc, pour cette raison, nous savons tous que le temps peut manquer ou le temps peut faire défaut, d'où le besoin d'en faire un bon usage. Racheter le temps, c'est aussi un appel à prendre conscience que les conditions pourraient être défavorables. Donc, nous savons aussi que, il y a des choses que nous pouvons faire aujourd'hui et qu'on ne pourra plus faire demain. Donc, il y a un temps qui est favorable à une activité, et puis après, ça l'est plus. Et donc, dans ce sens, il est aussi important de poser les bons actes au bon moment. Donc, voilà. Alors, le passage que nous voulons de lire nous appelle à racheter le temps, mais à quel sujet? Pourquoi ce passage nous invite-t-il à racheter le temps? Pourquoi ce passage nous invite-t-il ou pour quelle raison ce passage nous invite-t-il à nous empresser? Pour nous aider à prendre la mesure du sujet, je vous invite à considérer l'avis de Pierre. Et l'avis de Pierre sera notre fil conducteur tout au long de ce message. Mais dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le cas de Jésus. Alors, vas-y. C'est le diapo, normalement, 3. Voilà. Nous allons nous concentrer d'abord sur le cas de Jésus. Alors, je prends des exemples en termes de personnages dans la Bible parce que l'étude des personnages a un avantage. Il nous permet de voir globalement la vie des gens dans la Bible, des gens qui nous ont précédés dans la Bible, de voir comment ils ont exercé leur foi, de voir comment ils ont agi ou les actes qu'ils ont posés devant des situations précises. Et de voir aussi comment Dieu lui-même a montré sa fidélité à l'égard des gens qui ont marché avec eux, avec lui, comment il leur a témoigné sa fidélité et sa présence le temps d'une vie. Pas simplement pendant une année ou 10 ans, mais vraiment le temps de toute une vie. Et c'est très intéressant de le voir sur cette échelle-là. Donc avant de commencer le cas de Pierre, je vous ai dit on va d'abord parler de Christ. Et donc je disais, si on veut bien gérer son temps, il faut d'abord savoir ce qu'on souhaite en faire. Vous pouvez pas tirer meilleur profit de votre temps si vous ne savez pas quel est l'objectif qui vous anime ou si vous n'avez pas un but, si vous n'avez pas un projet ou si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, c'est difficile d'en faire un bon usage. Et donc, l'exemple de Jésus, pour le voir, je vais inviter Aïcha à nous lire Luc chapitre 19, verset 10.
Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Voilà l'appel de Christ. Jésus est venu sur cette terre et il a été animé tout au long de son passage terrestre. Il a été animé par ça. Quand il se lève le matin, c'est ça son objectif. Tout ce qu'il fait tourne autour de ça. Il est animé par ça. Il sait qu'il va gérer, il va mettre son temps au service de cet objectif-là, de cet appel. Maintenant, une fois que Jésus il sait ça, je vous invite à voir comment il le prend en lisant Matthieu 6, verset 24. Ça.
Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et maman.
Voilà comment Jésus présente les choses. Il sait qu'il faut qu'il se consacre à son appel. Il sait qu'il doit se donner entièrement à cet appel. Il ne peut pas prendre le risque de se disperser. S'il se dispersait, il pourrait négliger certains détails, il pourrait passer à côté. Et donc, Jésus lui-même, qui est notre exemple suprême, il sait qu'il est au service d'un seul Dieu. Il sert pas deux dieux, il sert pas à moitié un Dieu et un autre Dieu. Non, il est au service d'un seul Dieu. Maintenant qu'il connaît son appel et il s'y donne totalement, évidemment, il pose aussi des actes. Et dans ce sens, lisons Jean 9, 4. Aïcha.
Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
Alors voilà. Jésus sait qu'il faut qu'il travaille aussi. Il sait qu'il faut qu'il mette la main à la pâte. Il faut, permettez-moi cette expression ou cette image, il faut pétrir la pâte. si vous ne malaxez pas la pâte, elle ne prendra pas. Donc, à un moment donné, eh ben, il faut mettre la main à la pâte et on ne peut pas se satisfaire de bonnes intentions. On ne peut pas simplement faire de beaux discours, mais à un moment donné, il faut travailler. Donc, maintenant que les bases sont posées, nous allons voir le cas de Pierre. Diapo suivante. Alors, nous partons sur la même, le même schéma ou la même approche. On a une raison ou un appel. On veut s'y donner totalement. Et puis, en même temps, eh bien, on se met en action, on pose des actes. Nous allons lire le Marc 1, verset 16 à 18.
Marc 1, verset 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent.
Voilà l'appel de Jésus pour Pierre. Quand Jésus le rencontra, il dit, « Toi qui pêchais des poissons avant, maintenant je souhaite que tu me suives. » Et ce qui est beau dans le test nous dit que Pierre, il suivit Jésus. Et l'appel de Jésus pour Pierre, c'est de faire qu'il devienne maintenant un pêcheur d'hommes. Il souhaite faire de Pierre quelqu'un qui pourra annoncer à d'autres personnes la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, dont la nouvelle qui est bonne et dont nous parlons ici, c'est que Christ est mort pour le péché de chacun afin de ramener tout homme à Dieu et de le sauver de la perdition éternelle. Et donc, pendant 3 années environ, pendant le ministère terrestre de Jésus, Pierre, il va côtoyer Jésus. Il sera son disciple et Jésus sera le maître. Et Pierre aura des occasions pour exprimer à Jésus son attachement. Parce qu'il a un appel, après il faut aussi qu'il se donne totalement à cet appel-là. Et nous allons lire un passage qui montre aussi cet attachement de Pierre à son maître. Lisons Luc 22, verset 33.
Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort.
Alors, Pierre a dit cette phrase-là, ou Pierre a exprimé cet attachement-là, pendant un moment critique, où Jésus commençait à annoncer à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre et qu'il meure. Et donc, qu'il sera une occasion de chute pour tous ses disciples. Il y a même un verset qui dit « Je frapperai le berger et tous les brebis se disperseront. » Et quand Pierre a entendu ça, il dit « Non, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » On voit ici que Pierre, il se donne totalement à son maître sans réserve. Il veut le suivre avec un cœur entier. Pendant aussi la période où Pierre a côtoyé Jésus, il a eu également des occasions pour mettre en pratique les enseignements de Jésus. Il a eu des occasions pour exercer sa foi. Et parmi toutes ces occasions-là, j'aime vous partager celui-là. Et donc, pour le contexte, hein, c'est un moment où, je pense, après la première multiplication des pains, Jésus renvoya ses disciples et leur demanda de traverser la mer et de le devancer. Il les rejoindra plus tard. Et pendant qu'ils traversaient, Jésus il va à l'encontre de ses disciples en marchant sur la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons Matthieu 14, versets 28 à 29.
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Alors, évidemment, les disciples, ils ont vu Jésus arriver. Enfin, quelqu'un qui marche sur les eaux, ils n'y ont pas cru. Certains l'ont même pris pour un fantôme. Et Jésus les rassure, il dit, c'est moi, c'est pas un fantôme. Et que fait Pierre? Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc, je vous laisse imaginer un peu la scène. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux, mais moi, j'imagine que les disciples, je les comprends quand ils disent quelque part que c'est un fantôme. Jésus les a rassurés. C'est intéressant de voir la réaction de Pierre. Pierre, devant une situation qui était complètement inédite, j'imagine pour lui, qui était une situation inconnue, il répond à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi aussi et que moi aussi je marche sur les eaux. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas autre chose, il lui dit viens. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que Jésus et Pierre, ils sortent de la baraque et ils marchent sur les eaux. Donc moi, c'est quelque chose qui me frappe parce que voilà Pierre qui fait confiance à son maître et il se met en mouvement devant une situation qui lui est complètement inédite hein, et qui lui est complètement nouvelle. Et donc, la confiance qu'il fait à Christ lui amène à ne même pas voir certains risques où il fait une confiance totale à Christ et il est prêt à prendre des risques. Et nous voyons là que la fin de l'histoire, nous la connaissons tous. Et nous voyons que Pierre n'a jamais regretté de faire cette confiance-là à son Seigneur dans une situation qui est nouvelle. Nous continuons le diapo suivant. À présent, je vous invite à voir notre propre cas. Donc là, on a deux exemples. Celui de Christ et celui de Pierre. Alors, vous allez me dire, et nous dans tout cela, et moi dans tout cela. Est-ce que moi aussi j'ai un appel spécifique ou alors le Seigneur n'a pas forcément une volonté claire pour moi? Alors, j'ai envie de vous dire que le Seigneur Jésus, il nous appelle nous aussi, il nous appelle tous à faire quelque chose. Il a exprimé une volonté qui est valable pour nous tous. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7.
Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration.
Voilà. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Il y a même d'autres versions qui disent « il nous a appelés à la sanctification ». Et ces mots-là s'adressent à tout le monde. C'est aussi un appel que le Seigneur nous fait à nous tous à vivre la sanctification. Et d'ailleurs, je dois dire que si vous vous rappelez de Jean chapitre 17, il y a un passage, hein, ce chapitre, les gens l'appellent souvent la prière sacerdotale. Et pendant cette prière-là, Jésus il présente ses disciples à Dieu le Père. Et souvenez-vous que dans cette prière, l'une des grandes requêtes, hein, l'une des grandes demandes que Jésus a fait auprès du Père en faveur de ses disciples, c'est qu'ils soient sanctifiés. Et il avait dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous vous appropriez cet appel à la sanctification qui est aussi décrit, hein, ce passage de aux Thessaloniciens nous détaille une définition pratique de la sanctification. Donc, je ne sais pas à quel point vous l'appropriez, mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites de cet appel-là le vôtre, eh bien, il faudra le faire aussi avec un cœur entier. Lisons Éphésiens 5, la première phrase du chapitre 8.
Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Nous voyons une opposition de temps, autrefois et maintenant. Et nous voyons une opposition d'état ou d'identité. Ténèbres et lumière. Et donc, si vous vous appropriez votre nouvelle identité et que vous l'appropriez totalement, eh bien, vous vivrez dans la lumière. Il n'y a pas moitié ténèbres, moitié lumière. C'est totalement dans la lumière maintenant. Et si nous vivons dans la lumière, qu'est-ce que ça produit en nous? En quoi, quel mouvement la lumière met en œuvre en nous? Nous lirons la suite, la fin du verset 8 et 9.
Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité.
Voilà. Donc, notre attachement à Dieu, à vivre dans la sainteté, eh ben, fait que nous mettons en œuvre la confiance que nous avons en Christ. Et cela nous pousse à marcher dans la lumière comme les enfants de la, comme les enfants de la lumière. Et marcher implique parfois de tomber. Ceux qui ont des enfants le savent, hein, ou ceux qui ont eu des petits frères le savent. C'est que les enfants, eh ben, ils ne marchent pas du jour au lendemain de manière équilibrée. Donc, il y a un temps où ils tâtonnent, parfois ils tombent lourdement et ils pleurent. Mais ils sont toujours animés par la volonté d'aller de l'avant. Je ne connais pas d'enfants qui se plaisent à rester à quatre pattes. Et puis, il y a aussi les parents qui sont derrière, qui les motivent, qui leur sourient, et les enfants savent qu'ils vont dans le bon sens. Donc, nous marchons dans la lumière malgré des chutes ou des difficultés ou des échecs, si nous en connaissons. Cela nous amène à la deuxième partie. Souvenez-vous, racheter le temps. Cela nous amène à la deuxième partie où j'aimerais qu'on voit un peu un cas d'échec. Que faire en cas d'échec? Et dans cette partie-là, vous remarquerez, hein, en tout cas à l'ordre du jour, j'ai rien mis au sujet du Seigneur, au sujet de Jésus, pour la simple et bonne raison que c'est l'exemple suprême pour nous et qui n'a pas connu d'échec ou de péché. Donc, il y a même un verset qui le dit très bien, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Avançons pour voir le cas de Pierre. Alors, si j'ai choisi l'exemple de Pierre pour illustrer, hein, pour être le fil conducteur de mon partage ce matin, c'est que le parcours de Pierre est riche d'enseignements. Et il est arrivé à Pierre de renier le Seigneur malgré sa confession « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort ». Pierre a dit ça et quand il avait dit, il avait vraiment dit de tout son cœur. Et pourtant, Pierre, il a connu l'échec. Il a renié le Seigneur. Et je vous invite à lire Matthieu chapitre 26, verset 75.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement.
Voilà Pierre qui avait exprimé tout son attachement à Jésus, Pierre qui voulait vraiment s'attacher à Jésus, eh ben, il lui est arrivé de renier le Seigneur à un moment crucial, quoi, à un moment qui compte. Le Seigneur est maintenant dans le vif du sujet. Il est en pleine souffrance, j'ai envie de dire. Et Pierre se désengage de lui. Et c'est un fait qui est difficile pour Pierre. Lui qui est le leader, on va dire, des disciples à l'époque. Lui qui a marché hein, sur les eaux, souvenez-vous. Lui qui a côtoyé le Seigneur pendant autant d'années, qui a écouté ses enseignements, qui a exercé sa foi, il est forcé de constater que il y a des situations qui le prennent de court et il n'est pas forcément prêt d'aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment difficile pour lui à encaisser. La Bible nous dit, il pleura. Et il pleura amèrement. Ça veut dire qu'il reconnaît, il n'a pas nié en fait, hein. Il nie pas ce qui lui arrive, et il constate que il en est là, il faut bien le constater, et c'est vraiment quelque chose qui lui pèse. Et donc je dirais reconnaître son péché, reconnaître son égarement, ou reconnaître son échec, est le premier pas vers la repentance. Une fois que l'échec est reconnu ou que nous ne l'avons pas nié, la suite consistera à renouveler l'appel ou à revenir à notre appel. Il faut revenir à notre raison d'être. Il faut revenir à ce qui nous anime, même si on s'en est détaché un temps. Il faut y revenir, sinon tout le projet perd son sens. Pour le cas de Pierre, c'est Jésus lui-même qui va le lui renouveler, qui va renouveler à Pierre son appel. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 21, verset 17.
Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paix mes brebis.
Vous voyez, on n'a pas le temps de tout lire. Par contre, on constate ici que Jésus, il demande à Pierre une troisième fois s'il aimait. La première fois, il a dit oui. La deuxième fois, je synthétise. La deuxième fois, il dit oui. On lui pose la troisième fois la même question. Est-ce que la personne qui me pose la question met en doute mes réponses ou pas? Qui aura pu se poser cette question-là? Et sachant que c'est le Seigneur, Pierre lui dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais Pierre aussi sait. Pierre sait qu'à un moment donné, il avait renié le Seigneur. Donc, vous imaginez un peu comment les choses se passent dans sa tête. Force est de constater ici que c'est Jésus lui-même qui revient encore à Pierre et lui renouvelle son appel. Et ce faisant, Jésus renouvelle à Pierre sa confiance et le rétablit dans son rôle de pêcheur d'homme et non de pêcheur de poissons. Et quelle joie de voir après Pierre prêcher et apporter la bonne nouvelle à des multitudes de personnes plus tard. Et pour y arriver, il faut se rappeler que Pierre et tous les disciples, ils ont dû aussi persévérer. Parfois, le Seigneur nous dit les choses, il nous appelle à un but où il attend de nous qu'on aille dans une direction, mais les choses ne se font pas forcément tout de suite. Il y a une période où il faut persévérer. Et donc, acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord, tous pour les disciples, persévéraient dans la prière. Et donc, c'est dans la persévérance que Pierre et les disciples ont été réinstallés ou ils se sont pleinement assis dans ce que le Seigneur attendait. Et pour ce faire, je vous invite à lire acte 2, chapitre 4, verset 14.
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Voilà Pierre qui lançait des filets pour prendre les poissons. Maintenant, il ose se tenir devant plusieurs personnes, parler ouvertement de la bonne nouvelle. Lui qui avant avait du mal à défendre Jésus dans un petit cercle. Et là, c'est parti, il est installé dans son rôle, quoi. Nous allons avancer. La suite du diapo. Nous avons vu le cas de Pierre qui a traversé un échec et comment le Seigneur l'a accompagné à traverser cette période de turbulence. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que toi, tu fais quand il t'arrive de tomber bas? Qu'est-ce que tu fais quand tu faillis? Et comment tu le prends quand tu pêches? Racheter le temps, même dans l'échec. Vous savez, les épreuves et les tentations peuvent être un moment de stress aigu pour notre foi. Et si nous sortons mal des épreuves, nous pouvons développer de mauvaises attitudes ou rentrer dans des engrenages qui nous font perdre beaucoup de temps et nous font un grand tort. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi quand il t'arrive de t'égarer? C'est très simple. Vous savez, le Seigneur nous accompagne de la même manière qu'il a fait pour ceux qui nous avaient déjà précédés. À l'égard de Pierre, le Seigneur attend de toi, le Seigneur attend de nous, que quand nous péchons ou que nous nous égarons, qu'on reconnaisse simplement que nous sommes à côté et qu'on revienne à lui, qu'on se repente. Et donc, lisons Ésaïe 55, verset 7.
Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de lourd à vous reprocher. Je ne sais pas si vous dites mon cas est à part, c'est trop grave. Je ne sais pas comment vous abordez votre situation, mais sachez que le Dieu vivant qui a fait toutes choses et à qui tout est soumis, il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il pardonne. Il ne s'en lasse pas. C'est ce que me dit la Bible. Il n'y a pas de raison de se morfondre éternellement dans un égarement. Il faut à un moment donné que vous le sachiez, que l'acte qui a été posé n'est pas la bonne et qu'il faut revenir. Et en tout cas, le Seigneur est là, il a les bras ouverts pour vous accueillir. Il faut reconnaître son péché et ne pas le nier. Et une fois que le péché est reconnu, il faut garder ses regards sur le Seigneur. Il faut garder le regard sur celui qui peut renouveler, qui peut nous renouveler son appel, sur la personne qui peut réorienter l'appel s'il le faut, sur la personne qui peut nous rétablir. Sur la personne qui, dans
Hébreux 12, et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà.
Garder les regards sur Jésus nous permet de nous attendre à lui, de ne pas nous centrer sur nous, mais de garder les regards sur la solution et de nous remettre complètement à lui. Cela nous évite de nous disperser et de perdre nos forces dans de mauvaises directions. C'est lui-même qui nous a appelés. C'est lui-même qui a commencé quelque chose en nous. C'est lui-même qui amènera à la perfection ce qu'il a commencé, même si tu traverses quelque chose qui est dur à encaisser. Si tes regards sont sur lui, il saura te restaurer. Souvenez-vous, il a souffert la croix Et il a connu le mépris, il a connu l'isolement, il a connu l'ignominie, il a connu beaucoup de choses. Mais il en est sorti victorieux et il comprend les contrariétés que tu peux être amené à gérer. Et il peut t'aider à les surmonter et il peut te restaurer. Enfin, il nous faut également persévérer comme Pierre et les onze qui avaient persévéré. Et donc, lisons Hébreux 6, verset 12.
En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Amen.
Je continue ?
Un instant.
Ok.
Vous voyez, il nous faut aussi persévérer. Pourquoi persévérer ? Parce que c'est par la foi et la persévérance que nous pouvons... c'est par la foi et la persévérance que le Seigneur accomplit les promesses que lui-même, il nous a faites. Vous voyez ? C'est par la foi et la persévérance que le Seigneur lui-même, il accomplit les choses pour nous. Donc, il nous faut tenir bon, ne pas trop vite relâcher, mais tenir la distance. Parce que si nous relâchons trop vite, nous risquons de passer à côté. Lisons Apocalypse 3, verset 11.
Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
Le Seigneur nous invite à retenir notre foi. Le Seigneur nous invite à nous consacrer à notre appel. Quel que soit ce que nous traversons ou quel que soit ce que nous connaissons, ce serait dommage quoi, que nous abandonnons la foi, hein, je le dis simplement comme ça. Le Seigneur nous demande de retenir cela afin que personne ne prenne notre couronne quand il viendra. Et donc, en guise de conclusion, diapo suivant. En guise de conclusion, le Seigneur a des projets pour nous. Il a de très beaux projets pour nous. Il nous appelle à vivre dans la sanctification. Il a des dons à nous confier. Il nous appelle à faire ça, à faire cela. Il nous appelle à nous consacrer à lui, à vivre de belles aventures avec lui. Mais en même temps, il a besoin du temps pour parfaire son œuvre en nous. Il a besoin du temps pour faire toutes ces choses-là. Évidemment, c'est lui, le Seigneur, il peut faire toutes ces choses en claquant les doigts en un instant. La contrainte, c'est que nous, les hommes, nous sommes soumis au temps. Tout ce que nous faisons s'inscrit dans le temps. Et donc, pour pouvoir marcher avec nous et réaliser ces œuvres en nous, le Seigneur, il s'inscrit aussi dans le temps. Et donc, il serait dommage que nous ralentissions l'œuvre du Seigneur en nous. Il serait dommage que le Seigneur prenne 10 années pour accomplir en nous ce qu'il peut faire en 5 ans. C'est dommage. Il serait dommage que le Seigneur prenne 50 ans pour accomplir en nous une œuvre qu'il aurait pu faire en 10 ans. Donc, ce n'est pas à nous. C'est dommage que ce soit à nous qui ralentissions le Seigneur. Et il serait aussi dommage que nous restons au lait, que nous contentons de lait, alors qu'on pourrait prendre de la nourriture solide. Donc vous voyez, si je prends là encore l'exemple des parents, les parents sont obligés de suivre le rythme de l'enfant à un moment donné. Vous ne pouvez pas donner une nourriture trop solide à un enfant qui en est au lait, quoi. Donc, ce serait dommage. Pourquoi ? Parce que la vie de l'homme est courte, hein. Ceux qui vivent longtemps, peut-être ils vont à 100 ans, mais le temps passe et il ne sert à rien de ralentir le Seigneur ou de ne pas lui permettre d'accomplir ses desseins à temps dans nos vies. Donc, je dirais, racheter le temps est un appel à vivre la volonté de Dieu maintenant, pas demain, maintenant. C'est un appel à vivre la sainteté maintenant avec le Seigneur. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je vous propose donc de revenir à notre texte de départ, soit le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Nous ne lirons ici que quelques versets, et parce que là aussi, on est soumis au temps. Mais évidemment, je vous recommande à prendre le temps pour lire dans la semaine ce chapitre, à le méditer, à le travailler, à le ruminer, je ne sais pas quel terme vous préférez, et pour que vous-même, vous aussi, vous allez au bout de ce chapitre, et pourquoi pas de lire, je vais dire, l'épître tout entier, pour encore une fois comprendre tout le contexte et tous les tenants et aboutissants de cet appel à vivre la sainteté. Donc, nous lirons dans un premier temps, vous voyez, hein, Éphésiens 5, le verset 1, puis le verset 8 à 11. Zahar.
Alors. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Amen. Éphésiens 5, versets 14 à 17. Aïcha.
C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. »
Amen.
Amen.
Et donc, pour terminer mon intervention, je vous propose de chanter ensemble « La voix du Seigneur m'appelle ».